Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pas une petite pièce, si.
Bien entendu.
Vous pouvez m'en donner une, si
je peux, bien sûr.
Vous m'en donnez une? Pourquoi pas?
Parce que je veux pas que vous le buviez, cet argent. Je veux pouvoir aller de ma voiture à mon bureau sans avoir à affronter l'image du déclin du monde occidental. Et puis sur Anna en plus.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Eh ben ça va et toi?
Ça va et toi?
Écoutez, je vais très bien parce que aujourd'hui dans cet épisode, nous sommes très heureux de recevoir Emmanuel Curtil. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Emmanuel?
Eh bien, je m'appelle Emmanuel Curtil. Je suis comédien depuis très très longtemps maintenant, depuis l'âge de 10 ans. Donc ça fait 43 ans exactement. Et voilà, et donc je suis plus connu grâce à ma voix, puisque je fais mon activité principale, c'est le doublage. Voilà, donc vous avez pu m'entendre dans des films, séries étrangers.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous avez probablement reconnu la voix. C'est majoritairement la voix de Jim Carrey et aussi de Matthew Perry qui nous a quittés récemment, j'imagine.
C'est con parce qu'il y en a un qui a arrêté le métier, l'autre qui est mort. Donc,
oui,
voilà. Il va être au chômage technique bientôt.
C'est vrai, ça. Et c'est vrai que c'est relou. Alors, figure-toi que j'y ai pensé et j'ai pas osé te poser la question.
Vous pouvez pas savoir le nombre de messages de condoléances que j'ai eu en plus. J'ai eu l'impression d'en faire un proche.
Non, mais justement, ouais. Alors j'imagine qu'on t'a posé beaucoup la question là, ces derniers jours. Comment est-ce que tu as reçu la nouvelle de la disparition de Matthew Perry?
Bon, alors je dois t'avouer que j'étais moyennement surpris parce que c'est vrai qu'avec ses boires et déboires, il a quand même un peu payé l'addition de ces dizaines d'années de ses excès en tout genre, hein, que ce soit l'alcool, les drogues, tout ça. Donc, et puis il ne s'en cachait pas du tout, hein, mais en plus il a eu des problèmes de santé liés à sa consommation. Voilà, et comme il le disait lui-même, j'aurais dû mourir 20 fois. Donc voilà, c'était un peu un miraculé. Après, c'est vrai que je l'ai reçu un peu au départ comme une information un peu lambda, quoi, un peu comme n'importe qui de fan aussi, parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, donc ça m'a fait de la peine. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte après coup que j'avais quand même un attachement particulier pour ce comédien, ce qui est normal, puisque j'ai doublé 22 ans, hein, parce que je n'ai pas doublé que dans Friends. Hein, je l'ai retrouvé aussi après dans d'autres séries, et puis dans quelques films. Donc c'est un peu particulier la relation qu'on a avec un acteur qu'on double, et surtout quand on s'entend bien avec... Enfin, je veux dire, j'entends par là que j'ai pas eu de mal à le doubler immédiatement, parce que c'est vraiment un acteur dont je me sens proche dans la nature de comédien, dans son tempérament, dans son sens du comique... Enfin, je dis ça en toute humilité, hein, parce que j'ai l'air vraiment de me la péter, mais non, n'y voyez pas de... Mais c'est vraiment...
Le côté un peu sarcastique, tout ça.
Oui, voilà, c'est vraiment tout à fait mon style d'humour. J'ai commencé par Friends, la série Friends, et j'étais étonné d'avoir aussi peu de difficultés, en fait, à le doubler.
Est-ce que tu as le souvenir comme ça d'un épisode que tu as aimé doubler plus qu'un autre dans tout Friends?
Non.
Vraiment, t'as pris du plaisir à jouer, parce qu'il y avait pas mal de scènes avec Joey. D'ailleurs, Joey est doublé par qui en VF?
Alors, c'est Marc Lesser.
D'accord.
Qui était super. Et j'ai beaucoup aimé doubler les scènes, les dialogues, les scènes en duo avec Marc, parce que on s'entendait particulièrement bien. Et
ça s'entend.
Même si on n'a pas réussi. Bah oui, forcément. Puis c'est avec lui aussi que je me suis permis. Quelques improvisations autour du personnage, enfin des choses qui n'étaient pas du tout écrites en anglais, hein, ni même dans l'adaptation française. Hein, on s'est permis des conneries à nous, quoi. Mais parce que justement, on avait réussi à alors peut-être pas tout à fait avoir le même lien, la même complicité, parce que eux vraiment sont c'est même, ils sont même pas amis, c'est la famille, quoi. Ils ont vécu ensemble, hein, quasiment. Mmh. 10 saisons de 22 épisodes, ils tournaient un épisode en une semaine. Nous, on doublait un épisode en une demi-journée quand même, donc c'est pas tout à fait le même rythme. Ça représentait 11 jours de travail par an. eux, bon, ça représentait 22 semaines quoi, de travail. Donc ils vivaient quasiment ensemble. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'avec Marc, on s'entendait extrêmement bien, puis on se connaissait avant surtout, et puis on s'est retrouvés après. Enfin, entre-temps, on n'a pas fait que Friends ensemble. Hein. Mais c'est vrai qu'on a réussi à rétablir un petit peu cette espèce de complicité qui est un peu l'image. Quoi.
Alors, je préviens, j'ai une question hyper badante à te poser, mais la réponse m'intéresse beaucoup. Quand on double aussi longtemps un personnage comme ça, qu'on s'identifie peut-être à lui aussi, comme tu viens de le dire, est-ce qu'on n'a pas l'impression de mourir un peu en même temps que lui quand il disparaît ?
Bah, alors c'est vrai que c'est un peu badant comme question, mais c'est... je vais y répondre. Non, mais t'as quand même un peu l'impression... On s'est parlé beaucoup au téléphone avec Marc quand on a appris la mort de Matthew Perry. Et on s'est rendu compte à quel point, a posteriori, on avait eu de la chance de doubler cette série. C'était une époque vraiment géniale de notre carrière, hein, aussi bien Marc que moi. Moi, tout est arrivé un petit peu en même temps. J'ai peu de temps avant, j'avais fait The Mask, Le Roi Lion, enfin voilà. Et c'était vraiment une époque géniale. Et puis, c'était une époque où aussi on pouvait se permettre. On avait quand même une certaine liberté qu'on a moins maintenant dans le doublage, ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que maintenant, tout est supervisé par je ne sais combien de toute une équipe de superviseurs artistiques. Et du coup, on a plus de liberté, en fait. On peut se permettre de dire des choses qui ne sont pas forcément dans l'anglais, mais qui sont un peu de l'improvisation et des trucs à nous, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai suivi 22 ans, donc... Et puis c'est vrai que c'est un comédien, je te dis, que dont je me sentais proche au niveau du tempérament, de la nature, comme ça, au niveau du rythme, de son sens de la comédie et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est tout un pan de ma carrière, une page de toute une partie de ma carrière qui se tourne. Quoi. Mmh. Et effectivement, t'as un peu l'impression de perdre une partie de toi-même. Quoi. Voilà.
C'était badant un peu. Hein.
Non, mais bon, c'est normal. Quoi. Mais cela dit, c'est normal. Et puis, c'est des souvenirs merveilleux. Hein. J'ai vraiment, surtout Friends. Mais parce qu'en plus, on travaillait ensemble, hein, tous. Mm. Enfin, autant que possible, hein, dans la mesure où on était tous disponibles en même temps. On enregistrait tous ensemble. Et c'était vraiment chouette, quoi. Et j'ai l'impression que c'est une partie de cette de ma carrière qui, voilà, dont il faut que je fasse le deuil.
Ouais. Alors, tu doubles aussi Jim Carrey depuis des années. Alors, dans cet épisode, Emmanuel, nous allons nous pencher sur une comédie dans laquelle il est peut-être à son meilleur niveau, à savoir Menteur, menteur. Menteur, menteur est un film sorti en 1997, réalisé par Tom Shadyac et comprenant à l'affiche Jim Carrey, Maura Tierney ou encore Carrie Elves. Il raconte l'histoire d'un avocat, pathologique menteur, qui du jour au lendemain est frappé d'un sort l'empêchant de mentir. Grand succès de l'année 1997, Menteur, menteur a récolté 302 millions de dollars au box-office pour un budget initial de 45 millions, en plus d'avoir obtenu une quasi-totalité de critiques élogieuses. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Emmanuel, quels sont tes souvenirs de doublage de Menteur Menteur ? Tu m'as dit juste avant l'émission que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas revu ce film.
Ben, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu en fait. Enfin, je l'ai vu à l'enregistrement. Après, je ne suis pas allé le voir au cinéma, parce que comme à peu près pour chacun des films que je double. Et puis,
Pourquoi est-ce que tu vas pas... C'est une envie, t'as pas envie de t'écouter?
Non, j'aime pas tout. Puis en général, j'ai envie de refaire ce que je... Quand je tombe sur un doublage, par hasard, sur un film que j'ai doublé à la télé, je vois que les défauts, en fait. Je suis pas tout à fait satisfait, j'ai envie de refaire des scènes, puis c'est pas possible, donc, puisque le film est diffusé déjà. Et donc, c'est pour ça que je suis pas très fan de m'écouter, en fait. Mais le souvenir que j'ai de ce film, en fait, c'est que je travaillais énormément à l'époque. J'avais énormément, énormément de boulot et je n'avais pas le temps de le faire. Et donc, je me souviens, on l'a fait un samedi et un dimanche.
En deux jours ?
Ouais, et j'étais tout seul. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout travaillé avec mes partenaires. Ce qui est moins rare maintenant, d'ailleurs, parce que depuis le Covid, en fait, avec le Covid, on a été obligé de travailler isolément. Donc, il y avait un comédien, l'ingé son, le DA, et c'était tout. On ne pouvait pas enregistrer avec son partenaire. Donc on a gardé ses habitudes un petit peu, que je trouve c'est un peu dommage, parce que quand on joue pas avec son partenaire, je trouve que c'est, c'est moins agréable déjà. Et puis je pense que la qualité s'en ressent aussi. Hein. Mm-hmm. Mais donc ce film, j'avais pas le temps j'avais très très peu de temps pour le faire. Donc je l'ai fait en deux jours, tout seul, un samedi et un dimanche. Et lui, il tourne, je sais pas en combien de temps il tourne, mais je pense qu'il doit mettre deux, trois mois à tourner un film. Moi, j'ai passé deux jours à gueuler non-stop. Comme dans Bruce Tout-Puissant aussi, hein, c'est pareil. Hein, il y a quelques comédies comme ça qui sont des souvenirs. C'est de très bons souvenirs parce que c'est un acteur merveilleux que j'ai plaisir à retrouver à chaque fois. Mais dans ce genre de comédie, il passe son temps à hurler, quoi. Lui, il a deux, trois mois pour le faire. Moi, j'ai deux jours. Et je gueule pendant deux jours non-stop, si bien qu'à la fin de l'enregistrement, j'étais quasiment à faune. En fait, si vous regardez bien le film, je pense que ça doit s'entendre. En fait, les dernières scènes, on entend, j'ai vraiment un voile sur les cordes vocales, quoi.
Parce que de tous les films dans lesquels il a joué, j'ai l'impression que Liar Liar, c'est un peu celui où il se donne le plus au niveau de la folie, de l'énergie.
Ah bah oui, c'est ça. Bah on retrouve la folie qu'il y avait dans les films de notamment des frères Farrelly, Food Irene, ce genre de... Voilà, c'est vraiment Jim Carrey dans toute son extravagance légendaire, quoi.
Guillaume, ton premier souvenir lié à ce film ?
Eh ben, ça va être vite vu, puisque j'avais vu beaucoup d'extraits, mais je ne l'avais jamais vu en entier.
Mais non.
Du coup, je l'ai vu il y a trois jours.
Ah, ah d'accord.
Et alors ?
C'est exceptionnel.
Bah, c'est trop bien, non ?
C'est exceptionnel.
En fait, c'est le film, c'est son enfant, en fait, à qui il ne dit jamais la vérité.
Exactement.
Enfin, en tout cas, il fait toujours des promesses qu'il ne tient pas, c'est ça
ouais.
Et donc, le jour de son anniversaire, son enfant, qui est un garçon, je crois.
Exactement.
Tu vois, finalement, j'ai
Mais c'est drôle que tu t'en souviennes pas.
Mais oui, effectivement, ça revient
25
comme
ans.
Ça. Et donc, il, pour son anniversaire, en fait, il lui... Enfin, c'est pas qu'il jette un sort, enfin, il fait un vœu.
Je veux que mon père ne mente plus.
Voilà. Et donc, il dit la vérité à tout le monde. Et puis, j'ai une scène, c'est une scène mémorable dans l'ascenseur où il sort de l'ascenseur et puis il dit « c'est moi qui ai pété », c'est ça ?
Oui, exactement.
Ça aussi, ouais, ça. Il y a beaucoup de ça.
Et où il dit oui, où il fait une réflexion sur Zénibar, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
C'est pas très 2023, ça.
Mais non,
non, pas très, non. Mais tu vois, ce que je me suis dit pendant ce film, c'est surtout, c'est un film... l'histoire, elle importe peu, comme tu disais, c'est un film de performance, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est bâti autour de... On veut voir Jim Carrey faire des grimaces et être extravagant, et après le reste, les autres personnages, on les retire à peine, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mmh.
Bah, c'était toujours un one-man show, hein,
ouais, c'est ça.
Jim Carrey. Bah, comme Bruce Tout-Puissant aussi, hein, c'est pareil. Hein, c'est très drôle. Bruce Tout-Puissant, je trouve que c'est une bonne comédie.
Et toi, Aurélien ?
Très efficace.
Moi, je l'ai vu au ciné, parce que c'était l'époque où j'étais très fan de Jim Carrey. C'était les grands comédien des années 90, quoi. Il y avait aussi Williams, c'est tout. Dès qu'il y avait un film qui sortait avec ces mecs-là,
c'était l'événement.
Et vraiment, deux grands de le voir au cinéma. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant.
Hein. Robin Williams,
comédien aussi fort.
Souvent les grands comiques, hein, sont
complètement dépresses.
Ouais. C'est pas des grands rigolos, quoi.
Ouais. Mais très bons souvenirs aussi.
Ne sont drôles que quand ils sont payés, en fait.
Ouais, c'est ça.
Quand il y a marqué caméra tournée, c'est bon.
C'est ça. 20 millions de dollars, ok, c'est bon. Je vais faire rire.
Là, je vais être drôle.
Moi, Liar Liar, c'est un film que j'ai toujours adoré et c'est un film que je place dans la catégorie des films réconfortants. C'est-à-dire que la musique du film, toute l'ambiance, etc., c'est le genre de film un peu comme Un flic à la maternelle ou tous ces films-là qui sont juste doux.
Ouais.
Et en regardant le film, je l'ai revu là il y a 2-3 jours, je l'ai déjà vu plein de fois ce film, mais je me suis dit, il n'y a plus vraiment de films comme ça aujourd'hui, quoi.
C'est un peu régressif. Tu vois, c'est quand tu regardes, t'es un peu, c'était cocooning chez toi,
tu regardes ça
un peu en famille, tu vois.
Mais c'est un peu doux, drôle comme ça, avec la musique derrière. Je sais pas, il y a plus trop ce genre de film. Et ça m'a fait penser à un article que j'ai lu il y a pas longtemps, en gros, qui parlait de la colorimétrie des séries depuis les années 2010. En fait, il faisait un parallèle entre les séries qu'il y avait avant, dans les années 90, et les séries de maintenant. Et on se rendait compte que le ton des couleurs était beaucoup plus terne. Sujets étaient beaucoup plus ternes qu'avant.
Tu vois, on parlait de Friends tout à l'heure, mais Friends, c'est typiquement la série doudou, quoi.
Ouais.
C'est la série que tu mets quand tu reviens de chez toi, d'une journée de taf, t'es fatigué, tu mets ça en fond, t'entends tous les personnages de Friends, ça te rassure, quoi.
Complètement.
C'est des amis, quoi. C'est comme des potes, en fait.
Ouais, et puis il y a aussi ce truc avec Friends, et c'est rare quand même les séries qui arrivent à produire ça. On a vu les épisodes 1000 fois, mais si ça passe à la télé, bon allez, on le laisse.
Quand même, ouais.
Oui, parce que c'est pas
avec eux, en fait.
Comme tu disais, c'est pas l'histoire n'a pas moins d'intérêt en fait que l'attachement qu'on peut éprouver pour les personnages ou simplement les situations, ou les vannes de Chandler, enfin les péripéties amoureuses de
surtout,
des uns et des autres.
Je trouve que Friends, ça n'a pas subi ce truc où parfois on se dit « Oh, les 5 premières saisons, c'est génial, et il y a une saison un peu moins bien, etc. »
Non, toutes les saisons. Si, la 9e et la 10e, elles sont moins bien que les autres.
Ouais, ah ouais,
ah ouais,
ouais. En français, je veux dire. Je dis ça parce qu'on
oui,
a.
Oui, parce que oui.
Ah oui, c'est vrai.
C'était un petit joke.
Alors, t'étais pas sur les
un
deux
petit,
dernières.
Un petit tacle.
Non, c'est ça, t'étais pas sur les deux dernières.
Ouais.
Et c'est drôle. C'est drôle
on, est trois, on est trois, Joey non plus et Rachel.
Ça, c'est alors, trop bizarre de changer les voix.
Ouais, mais attends, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai un vrai souvenir d'adolescence avec ce truc qui fait polémique. Parce qu'à l'époque, Friends, c'était tellement gros. Et je me souviens que ça faisait les gros titres. Et tout le monde était déçu de ne pas retrouver les voix, donc j'avais oublié que la tienne n'était plus. C'était quoi cette histoire, du coup, tu peux nous en parler ou...
Oh bah c'était pas, il n'y a pas de mystère autour de ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la série était évidemment très très exploitée, c'était diffusé, rediffusé tous les ans, etc. Puis chaque année, en fait, ils diffusaient la série depuis le début, et puis à la suite, ils diffusaient la nouvelle saison. Et puis ça, comme ça, ils ont fait ça tous les ans, jusqu'à la 10e saison. Et puis la série était diffusée sur 4 ou 5 chaînes, voire plus, simultanément. Hein. Et puis il y avait des ventes de vidéos, DVD, etc., sur lesquelles on n'avait absolument aucun droit et on aucun intéressement. Quoi. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que en fait, les chaînes principales, en tout cas diffusant la série, ne voulaient pas nous entendre sur d'autres choses. Donc on ne pouvait pas travailler sur de nouveaux produits. En fait.
Ah oui, tu vois.
Voilà, on était systématiquement. Je sais que moi, je suis. Une série notamment qui m'est complètement passée sous le nez parce que c'était Canal Jimmy qui diffusait et qu'il disait prenez n'importe qui mais pas la voix de Chandler.
Tu peux nous dire laquelle ou pas?
Alors j'ai complètement oublié, donc okay, c'est même pas une c'est même pas de la mauvaise volonté.
Canal Jimmy, il y avait Seinfeld, mais non, Seinfeld c'était avant Friends.
Oui, c'était avant Friends.
Ouais. Ok, d'accord. Oui, donc du coup, vous avez décidé.
Donc, on avait demandé une compensation, ce qui est assez juste, parce que c'est une sorte d'exclusivité qu'on nous demandait.
Ouais.
Donc, une exclusivité, ça se paye. En plus, on n'a pas demandé $1 million comme eux. Hein. Mais on a demandé une compensation, voilà, qui était quand même une augmentation assez substantielle de notre cachet, mais qu'on n'a pas voulu nous accorder.
Alors, tu sais que c'est drôle, parce que j'ai revu Friends dans son intégralité il y a 2-3 ans, et justement, à partir des saisons où il n'y a plus les. Vraie voix VF, j'ai mis en anglais quoi, les deux dernières.
Comme beaucoup, ça m'a fait plaisir d'ailleurs parce que ça prouve bien qu'on avait raison. On n'a pas fait ça parce que on était les voix attitrées, que c'était pas une prise d'otage, hein. C'était vraiment pour compenser le manque à gagner parce que du coup on pouvait plus faire quoi que ce soit d'autre sur France 2, sur Canal Jimmy et puis sur les autres chaînes. Les autres chaînes c'est moins important, mais disons que ça représentait quand même beaucoup de boulot en moins quoi.
Et c'est très bizarre de changer la voix, mais je me souviens aussi
changer de perso
Le Prince de Bel-Air. À un moment, la femme de l'oncle Phil, ils ont changé l'actrice.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont même pas dit que c'était l'attente d'une nouvelle femme.
Ça arrive quand les comédiens meurent.
Ouais, bah oui, mais
les comédiens à l'image.
Pour intégrer au scénario, peut-être qu'ils ne sont plus ensemble et qu'elle est partie et tout. C'est juste
non, après, c'est ça. Après, si le personnage marche bien, ils se disent tiens, on garde le personnage parce que ça marche bien.
Ouais, c'est trop bizarre.
C'est un des personnages vraiment de la série qui marche le mieux. Et donc, voilà, on garde le personnage.
Mais ils l'ont fait avec Retour vers le futur.
Aussi, ouais.
Ouais, aussi.
C'est marrant parce que moi, souvent, quand je regarde ça, je me disais mais t'es au courant que ta meuf ressemble plus à la meuf que t'avais la veille.
Ouais, c'est le postulat. Voilà.
Alors, Emmanuel, je sais que t'as vu Liar Liar, Menteur Menteur il y a très longtemps. Est-ce que malgré tout, t'as le souvenir d'une scène que tu préfères parmi les autres?
Dans Menteur Menteur?
Dans Menteur Menteur.
Non.
Une scène qui te revient en tête? Non, il n'y a rien?
Vraiment rien du tout.
C'est très drôle, ça. Aurélien, est-ce qu'il y a une scène que tu préfères dans Liar Liar?
Ouais, là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et il y en a. Je pense qu'il y a les celles qu'on va citer tous, mais il y a celle où il se tape la gueule tout seul là dans les chiottes. C'est quand même légendaire ce que tu te dis. Comment il arrive à faire ça? On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le taper alors qu'il est tout seul. Et en plus, il y a cette histoire assez folle où tu as un témoin qui le regarde et qui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me casser la gueule, mec. Laisse-moi, non.
Je me souviens maintenant que j'avais oublié ce.
Cette scène vraiment.
Quand tu l'évoques, je m'en souviens.
Visuellement, elle est folle et je pense qu'elle a dû être folle à doubler en plus parce que ça parle en tous les sens. Et sinon, celle qui me plaît le plus, c'est celle où sa collègue essaye de le piéger en le faisant venir au board et qu'il est obligé de dire des choses mauvaises.
Et finalement, tout le monde rigole.
Ouais, et il y a un silence et il le traite de tous les noms en lui disant oh, je te déteste, t'es nul, tu pues et tout. Et ça s'arrête. Et là, il rigole, il fait c'est génial, c'est la meilleure chose que j'ai vue. Et là, ça part en mode comédie où il se fout de la gueule de tout le monde. Il leur dit tous des vérités. Et je trouve la scène, elle est dingue. Elle est trop bien faite.
Trop marrant,
et la rythmique, elle est vraiment excellente.
Guillaume.
Moi, c'était la scène, la première fois où il arrive au tribunal et on lui dit bah alors, vous allez plaider quoi ? Il est obligé de dire la vérité, il peut pas. Et du coup, il peut pas mentir. Et du coup, il arrive pas à parler et il sort des grimaces incroyables. Ouais. Franchement, c'est ses meilleures grimaces, je crois. Il y a cette grimace-là et la grimace où, à un moment, vers la fin, il tombe, quand il poursuit l'avion, il tombe dans les bagages. Ouais. Et c'est sa tête où il est retenu, là, avec, une sangle de bagages. Je trouvais ça très, très fort.
Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, Guillaume, parce que les grimaces, vous devez les jouer aussi.
Ah, bah oui, oui, bah sinon. Bah, en fait, tu sais, quand on double un film, quand on double un comédien, que ce soit dans un film ou une série, on est obligé de se rapprocher au maximum de ce qu'il fait, hein, ou, on essaie de le trahir le moins possible. Donc, on est obligé de rejouer la scène. Si on veut bien faire les choses, on est obligé de rejouer la scène, mais de la jouer vraiment, en fait. Hein, c'est pas du tout. C'est pas juste la voix qu'on pose. Voilà.
Et est-ce que tu te calques sur ce que fait Jim Carrey en VO ? Ou alors vraiment t'es dans un mode improvisation, je vais la jouer un peu comme je
sais
jouer.
Non. Enfin si, oui, j'essaie de me caler sur ce qu'il fait en VO d'abord parce que ce qu'il fait en VO c'est génial, donc il vaut mieux s'inspirer de quelque chose de génial que voilà. Et puis après j'y mets ma sincérité, donc j'y mets forcément un peu de moi, un peu de ma fantaisie aussi. D'ailleurs le meilleur exemple c'est The Mask. Parce que dans The Mask, il fait des imitations, il fait des changements de voix. Alors, c'est bourré de références là-bas pour le public américain. Mais pour nous, il imite des gens nous, qu'on ne connaît pas pour la plupart du temps. Hein. Et il a fallu vraiment que je fasse appel à moi, à ma propre fantaisie, pour trouver des équivalents d'imitations qui parlent un peu plus au public français. Quoi.
C'est fou. Moi, ça veut dire que c'est toi qui as fait Splendide. Je viens de réaliser,
en fait. Oui, alors en anglais, il fait « smoking
ouais, ». Voilà,
et puis, c'était traduit par « splendide ». Donc, j'ai essayé de faire
de la manière
dont il le fait en anglais, ce qui n'est pas tout à fait exact. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, parce que bah, c'est l'intonation américaine. Donc, j'essaie de trouver un truc un peu plus français, mais qui correspond vraiment à...
Et c'était ton idée, « splendide » ou c'était écrit comme
ça ?
Non,
pas du tout, c'était la traduction.
C'était la traduction, ok, d'accord.
Mais c'est culte de fou.
De fou. Et moi, pour les scènes, toute cette période, juste avant, là, quand il entre au tribunal, quand il marche de l'ascenseur jusqu'au tribunal, il rencontre un SDF.
Oui.
Et vraiment, la scène du SDF, j'ai ri à haute voix, c'était dingue, drôle. Quoi. Où il dit, est-ce que vous avez une pièce ? Oui, j'en ai, bien sûr. Et lui, c'est incroyable, c'est tellement drôle.
Si on peut... Non, je t'aime pas.
Il y a un personnage dont on se fout un peu dans ce film, mais j'y ai pensé à la fin. Bah, le beau-père, c'est horrible pour lui le film en fait.
Ah bah oui.
Parce qu'en gros,
parce qu'à la fin,
c'est genre lui, c'est juste le loser du truc, c'est genre bon, allez,
oui, c'est Carrie Elwes qui joue dans Sacré Robin des Bois.
Et d'ailleurs, j'ai doublé d'ailleurs.
Oui, mais j'allais le dire justement, c'était la petite info. Quoi, hein,
le mec est partout.
Ce film.
Mais, c'est drôle.
Et non, si, il y a un truc, je me souviens du. En fait, c'est ouettement con, hein, mais parce qu'en plus, c'est la mode, il y a beaucoup de bêtisiers dans les génériques de fin. Et dans le générique de fin, il y a le bêtisier de Menteur. Et je me suis dit quand même que ça devait être à la fois assez jouissif de tourner avec un mec comme Jim Carrey, qui a l'air d'être un vrai, vrai gros déconneur, mais ça doit être assez agaçant aussi, parce qu'il a tellement de... Je pense qu'il a tellement d'énergie, il fait tellement de conneries. En fait, il fait des gags. Je sais que quand il a tourné dans Batman Forever, par exemple, c'est Val Kilmer qui faisait Batman.
Ouais.
Il en pouvait plus quoi de Jim Carrey. S'il n'arrêtait pas de lui faire des conneries, des gags, des canulars et tout ça.
Qui doit faire perdre beaucoup de temps aux équipes.
Et tu le vois dans le bêtisier, il a l'air vachement sympa ce mec, mais ça a l'air d'être épuisant de tourner avec un mec pareil. Parce qu'il part dans des délires, il part sur des impros, des trucs, et à mon avis, c'est partie de son succès, parce que je pense qu'il y a beaucoup de scènes improvisées qui ont été gardées, qui n'étaient pas du tout écrites au départ. Mais là, tu t'en rends compte en fait dans le bêtisier, parce qu'il fait rire tout le monde, mais je pense qu'il doit agacer beaucoup ses partenaires aussi.
Oui.
Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Jim Carrey ?
Non, jamais.
Non, jamais ? Il n'y a pas eu une opportunité ?
Ni lui, ni Matthew Perry.
Ok, d'accord. C'est un regret ou...
Pff, tu sais, moi je ne parle pas anglais, alors ça serait pas surtout très court.
Ouais, j'imagine.
Et puis, je pense qu'il parle, en général, les acteurs américains parlent moins bien français que je ne parle anglais.
Oui, voilà.
Donc ça serait dit hi, nice to meet you, et puis voilà. Quoi.
I am the voice.
You're my friend voice. Oh, amazing. Salut, mec. Voilà.
See you, ça fait 20 ans que je te doublais, connard.
Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de rencontrer le comédien que je doublais dans Loïs et Clark.
Okay.
Lors d'une convention, si on fait des conventions.
Dean Cain.
Dean Cain. Ouais. Et puis, bah, c'était ça, quoi. C'était you're my French voice. Oh, amazing. Nice to see you. Et puis voilà. Alors, on va y aller maintenant. Hein. J'ai une séance dédicace maintenant.
Je vais très bien.
Allez, salut.
Alors, Aurélien, ce film a été réalisé par Tom Shadyac, un réalisateur peu connu du grand public. Pourtant, il compte à son actif plusieurs comédies qui ont marqué l'Amérique et le reste du monde.
Et oui, tout à fait. Et, il a même un parcours de vie assez impressionnant. que j'ai découvert. Donc merci de cette chronique, vraiment, j'en suis très heureux. Et en effet, il a commencé en tant que comédien. En fait, la première séquence dont il parle souvent dans les interviews, c'est qu'il dit j'ai capté la force de l'humour quand j'ai vu ma mère regarder Johnny Carson à la télé. Donc Johnny Carson, grand animateur dans Late Show. Et sa mère était très malade et il a vu dans les yeux de sa mère que ça pouvait être un soin plus important que tous les médicaments qu'on pouvait lui donner, de juste rire au show de Johnny Carson. Donc c'est là qu'il s'est dit, genre, j'ai vraiment envie de tester tout ce truc du rire et d'avoir une carrière là-dedans. Et donc il a commencé à faire des blagues au lycée. Ça m'a rappelé d'ailleurs ton parcours, JB, parce qu'il était avec un pote et en fait il faisait un duo comique. Il faisait pas mal de choses dans les lycées et dans les hôpitaux déjà à côté pour faire rire les enfants et faire rire pas mal de gens autour. Et à un moment, il décide de partir à Los Angeles et il devient le plus jeune auteur de Bob Hope, encore un grand comédien qui avait beaucoup de specials, les specials à la télévision à l'époque, il y en avait une dizaine par an.
Et qui avait la particularité d'être l'ami des présidents, Bob Hope. Il jouait au golf avec eux.
Ouais, voilà, apparemment, c'était un mec méga connu. Quand tu parlais des gens qui ne sont pas connus en France, mais qui sont des énormes stars. Ouais. Bob Hope, c'est une énorme star. Et donc, c'était devenu le plus jeune auteur à bosser pour Bob Hope. Il avait seulement 24 ans en 1983. Et il a pas mal bossé avec lui. Et là, il découvre Hollywood, Tom. Et il essaye de devenir un peu acteur. Il joue dans un épisode de Magnum. comme ça un peu, et il se retrouve dans une comédie un peu foireuse team movie, mais en même temps il bosse sur des études de cinéma à UCLA et il est diplômé en 89 et en 91 il commence à vouloir un peu réaliser des films et il a la rencontre de sa vie qu'il découvre dans la série Living Color, c'est Jim Carrey. Et avec Jim Carrey ils s'entendent archi bien et très tôt ils écrivent ensemble ce qui va devenir Ace Ventura.
C'est lui qui a réalisé Ace Ventura.
Tom Chalier qui l'a réalisé et écrit avec Jim Carrey.
Ah oui, parce que les frères Farrelly c'était Dumb and Dumber et Woody Allen.
En fait, tout sort en 94 pour Jim Carrey. On en a parlé il y a pas très longtemps dans un autre podcast, dans un autre épisode. Mais c'est vrai que l'année 94 de Jim Carrey est folle vu qu'il sort au début de l'année Ace Ventura, ensuite il sort The Mask et en fin d'année Dumb and Dumber. Donc vraiment, tous les réalisateurs se l'arrachent. Mais c'est Tom Chadiak avec qui il développe finalement cette énergie. Et après avoir fait Ace Ventura, Tom Chadiak, ça vient un peu sorti de nulle part, le réalisateur star des comédies un peu dingues. Donc l'année suivante, il réalise, c'est en 96, mais l'année suivante, il bosse sur un projet avec Eddie Murphy, qui n'est autre que le professeur Folding, Naughty Professor, qui va être aussi un énorme succès au box-office, qui va être le premier film où Eddie Murphy a aussi beaucoup de changements de forme. Il y a un Oscar qui va être donné pour les maquillages et pour genre les costumes, qui va être un carton et qui est le deuxième film co-écrit par Tom Chadiak et réalisé par Tom Chadiak avec Eddie Murphy. Donc ça devient un peu la méga star des comédies des années 90.
C'est drôle parce que les gens ne connaissent pas vraiment ce nom.
Absolument pas, c'est fou. Alors que vraiment, en plus, si je vous annonce après que derrière, il a fait donc en 97 Menteur, puis derrière Patch Adams, un film qui est quand même aussi connu avec Robin Williams, où c'est une biographie autour d'un docteur qui justement a découvert que le rire pouvait être plus intéressant comme thérapie que finalement faire de la psychologie.
D'ailleurs, pour info, Robin Williams avait refusé le rôle de Jim Carrey dans Liar Liar.
Ouais.
Il l'a regretté par la suite, parce que le film était super.
Ouais.
Et c'est là qu'il a dit à Tom Chadiak, regarde, je regrette et on fera le prochain ensemble.
Ouais. Ouais. Donc Patch Adams aussi, gros succès, qui a bien fonctionné, tiré d'une histoire vraie. Et derrière, Tom Chadiak fait un film avec Kevin Costner, Dragonfly, qui marche un peu moins, mais il fait aussi Bruce Tout-Puissant, Bruce Almighty, en 2003, c'est lui qui réalise. Il n'est plus à l'écriture, mais il est toujours très proche de Jim Carrey. Et il va bosser aussi sur la suite, Evan Tout-Puissant, avec la consécration de Steve Carell, qu'il réalise aussi. Donc vraiment un énorme réalisateur de comédie dans ces années-là. Et là, 2007, il est blindé. Il a une énorme... c'est vraiment le mec qui fait les plus grosses comédies, comme tu as dit, qui ont les plus gros succès. C'est-à-dire, en fait, c'est les comédies qui coûtent pas très cher, mais rapportent énormément au box-office. Donc il a énormément de cash. Et il est fan, il vient de Virginie, et il est fan de vélo. Il fait du vélo, et là, il a un accident, mais vraiment un énorme accident de vélo.
Ah oui.
qui va le laisser dans un trauma pendant des mois où il va être suicidaire, il va avoir des acouphènes, des énormes migraines, et il va carrément perdre goût à la vie. Et peu de temps, il va prendre un an pour se remettre, et là il décide de complètement changer de life et il va complètement quitter le système d'Hollywood. Il va vendre sa baraque qui faisait 1600 m², il va la vendre plus de 50 millions je crois de dollars. Il va tout donner à des associations, il va monter un refuge pour les SDF et il va s'installer dans un trailer park, dans un camping en fait. il va s'installer dans une caravane en disant en fait je ne veux plus de vie matérielle, je veux me centrer uniquement sur ce qui est beau dans la vie. Il va réaliser un documentaire qui va sortir quelques années après qui s'appelle I Am, où c'est juste des discussions de lui avec des grands philosophes ou des sociologues pour réfléchir au but de la vie et aussi de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi le monde part en couille et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et il parle avec Desmond Tutu, Noah Chomsky.
Et ça s'appelle comment ce documentaire ?
I Am.
D'accord.
Et c'est vraiment lui. Et après, depuis, il a complètement fait marche arrière. Il s'est complètement mis à l'envers du système de Hollywood. Et il a donné tout son argent pour donner des fondations ou aider aux plus démunis ou même à développer des villes dans lesquelles il travaillait. Et il dit, maintenant, je me rends compte que moi, je me sens beaucoup mieux. En fait, avec moins, je me sens plus. Mais vu que j'ai quitté le club d'Hollywood, j'ai voulu refaire des films derrière et je galère. Et pour le coup, il a réussi à refaire un film en 2019 sur une histoire vraie d'un footballeur américain qui avait été accusé à tort de viol. Mais il dit, je suis sorti complètement de ce système, alors que j'ai fait parmi les plus grosses
c'est fou.
Sorties.
C'est marrant parce que c'est un point commun qu'il a avec son pote Jim Carrey. Parce que
exactement.
Jim Carrey, c'est pareil, je crois qu'il a arrêté le métier parce qu'il a fait un peu le tour et qu'il a abordé quand même beaucoup de registres. Il a prouvé dans plusieurs registres qu'il avait beaucoup de talent et qu'il était aussi crédible dans le drame que dans la comédie. Mais je crois qu'il l'a aussi quitté parce qu'il était un petit peu dégoûté de ce monde d'Hollywood et
ce
côté un peu très superficiel. Et
ouais, d'ailleurs, récemment, très matérialiste. Il a dit dans une interview que la seule raison qui lui permettrait là de revenir, c'est vraiment un script fait sur mesure,
refusé. Il dit en or tombé du ciel. Il a dit,
mais tu vois, par exemple.
Mais après, il a fait Sonic, donc je sais pas si.
Docteur Robotnik, il a fait uniquement pour ses enfants.
Et l'affaire Will Smith, par exemple, aux Oscars, ça l'a beaucoup affecté.
Ah ouais.
Ça a vraiment. Ça a été ça a ponctué vraiment. Ça a vraiment confirmé à quel point ce monde d'Hollywood le dégoûtait parce qu'il était scandalisé qu'on ne vienne pas arrêter ce mec, Will Smith, et non seulement que ce mec puisse se permettre d'aller coller un pain à l'animateur, au présentateur des Oscars, mais qu'en plus 10 minutes après tout le monde lui fasse une ovation et le couronne d'un Oscar, quoi. Ça paraît complètement invraisemblable, donc c'est vrai.
Surtout pour une vanne.
Bien sûr.
D'ailleurs, c'est fou parce que alors sur YouTube, il y a deux jours, j'ai sorti une vidéo, un split qui parle de ces acteurs qui ont changé de métier. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'acteurs qui quittent Hollywood parce qu'ils sont juste dégoûtés d'Hollywood en fait. Ils n'en peuvent plus. Les Cameron Diaz, même Gene Hackman, il en a eu marre à la fin, donc il a arrêté. Des gens qui ont juste marre d'Hollywood et qui ont l'impression d'avoir fait le tour un peu comme Jim Carrey.
Ouais. Et Jim Carrey, d'ailleurs, il est vachement dans la spiritualité, tu vois.
Il peint
aussi. Ouais. C'est pas mal ce qu'il fait, d'ailleurs. C'est sympa. C'est des grandes toiles. Il faut avoir des grands murs. Hein.
Et alors, comment t'expliques, Aurélien, que Tom Shadyac, ce soit comme ça, un réalisateur pas vraiment connu. On parlait, Emmanuel tout à l'heure parlait des frères Farrelly.
Bah ouais.
Ces grands réalisateurs de comédie. Pourquoi lui, on ne connaît pas son nom, à ton avis ?
Je pense qu'il y a moins de films. Et peut-être que c'est des films qu'on donne plus.
On a quand même Ventura, L'Ailleurs, Professeur Folding, Evan Tout-Puissant,
ouais,
Post-Puissant.
Mais je pense que c'est des films où on se base plus sur l'acteur et sur la performance de l'acteur. Ouais. Et un peu le one-man show de l'acteur.
Et puis la comédie,
réalisation.
La comédie, en plus, c'est un genre qui est quand même assez sous-estimé.
Ça, c'est vrai.
Et puis c'est vrai que au sein du métier d'ailleurs, au César par exemple, aux Oscars, c'est pas des comédies. Une comédie n'est jamais nommée.
C'est vrai. Je pense que Les Visiteurs n'avaient pas été nommés au César en 93.
Ouais, mais alors tu vois, c'est
pour vraiment que ce soit un phénomène.
Je me demande si ça n'a pas été nommé parce que maintenant je crois qu'il y a la meilleure comédie. Ils ont quand même réussi, il me semble, mais le César de la meilleure comédie.
Au Golden Globe, il y a ça, meilleure comédie, ça, c'est
ouais,
sûr.
Mais tu vois, c'est un genre à part. C'est un peu, tu vois,
D'ailleurs, je crois que c'est Danny Boone qui avait fait une interview où il disait que c'était pas juste parce que, par exemple, son film Bienvenue chez les Ch'tis avait fait un carton.
Ouais.
Et il comprenait pas parce qu'il disait,
pratiquement toute la France a aimé, donc pourquoi c'est pas nommé?
Ou c'est un César d'honneur souvent qu'on remet pour des, justement pour cette raison-là, parce que ça a eu un énorme succès, comme ça a été un énorme succès au box-office.
Faut dire que c'est pas un entre-soi, quoi.
C'est donc oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu à part, c'est un petit peu dénigré, mais c'est dommage parce que en plus je trouve qu'il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Oh, c'est plus dur.
Pour un comédien, je connais beaucoup plus de comédiens. Je trouve qu'il y a plus d'exemples de comédiens qui sont des grands comiques au départ et qui, dans le registre dramatique, sont tout aussi crédibles et aussi géniaux, à la star de Jim Carrey, que l'inverse.
C'est vrai.
Beaucoup de comédiens qui font toute leur vie, qui jouent des rôles sérieux et qui, tu les mets dans une comédie, ils sont pas du tout crédibles. Mais ils sont pas drôles.
Je pense à Sylvester Stallone.
Est-ce que si le côté Tom Shadyac n'est pas connu, c'est aussi que, comme c'est justement porté par des acteurs, il n'y a pas vraiment d'intention de réal, si ce n'est cadrer l'acteur, quoi. Tu vois ce que
oui,
je veux
oui,
dire
c'est clair que c'est un peu un one man show, quoi.
Il y a pas vraiment d'identité ou de patte de ce que je veux dire de réalisation, tu vois.
Bah après, il a quand même coécrit les deux premiers, donc Ace Ventura qui sort vraiment de nulle part. Naughty Professor qui est quand même une reprise d'un film de Jerry Lewis, mais il y avait quand même une patte à lui, je pense, au début des années 90. Mais qui était très relié aux acteurs qu'il choisissait. Parce qu'il avait quand même...
Ace Ventura, c'est un ovni. Hein. Ouais. C'est un truc.
Ça n'a aucun sens.
Franchement, je trouve qu'il y a une patte, pour le coup. Là, c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant et qu'on n'a jamais vu après, d'ailleurs. Mais c'est très, très particulier comme film.
C'est clair.
Oui, c'est vrai que c'est particulier.
Non, mais il y a un humour très. Voilà, c'est un ovni, quoi.
Mais je pense que c'est la personnalité du mec, là. Parce que quand on voit qu'après, il a tout claqué pour aller vivre dans une caravane et tout, je pense que c'est pas un mec qui se met énormément en avant.
Ouais, c'est pas un mec qui voulait avait briller, un délire. Quoi.
Il voulait pas devenir un réalisateur star, j'ai l'impression, en tout cas.
Alors, merci Aurélien pour cette.
Grave,
je connaissais pas du tout la deuxième partie.
Moi non plus, c'est incroyable. Cette vie m'a hyper inspiré. Je me suis dit, j'ai envie d'aller vivre dans une caravane. Ouais, j'ai pas 50 millions.
Est-ce que tu serais capable de tout plaquer?
Bah là, je peux tout plaquer. En vrai, j'habite dans une caravane, c'est pareil. Mais bon.
Ça changerait.
C'est pas pareil que de claquer 50 millions et de tout donner pour faire un refuge. En plus, c'est pas pareil, quoi.
Ce serait là, il est où Aurélien? Dans une caravane maintenant.
Après, je remets dans le contexte. Tu sais, c'est le fameux Paradise Lost de Malibu. C'est un trailer park, mais c'est un trailer park où t'as vu sur mer.
Oui,
d'accord.
Bien sûr.
Mais après, par contre, il n'a pas une grande baraque. C'est vraiment, il veut aller à l'essentiel, quoi.
D'accord. Alors, Emmanuel, nous avons déjà reçu dans cette émission deux personnes que tu connais sûrement, à savoir Damien Boisseau, qui a l'habitude de doubler Edward Norton et Matt Damon, ainsi que Luc Hamet, qui lui doublait Michael J. Fox. À chaque fois, on a joué un jeu avec eux, rejouer certaines scènes qu'ils ont doublées dans leur carrière, afin que les gens devinent de quel film il s'agit. Est-ce que tu es prêt pour qu'on le fasse avec toi? Alors, l'exercice est un peu compliqué, parce qu'il faut se remettre dans le ton, c'est un peu complexe. Mais donc, l'idée, c'est pour vous, Aurélien et Guillaume, de trouver le film en premier. Et vous qui nous écoutez, bien sûr, chez vous,
j'adore les jeux,
dans le métro ou dans votre salon, essayez de trouver.
Il faut quand même préciser que c'est des films que j'ai doublés dans une autre vie.
Bien sûr.
Donc, c'est pas tellement que ma mémoire me fait défaut, c'est que ce sont des films que j'ai vus à l'enregistrement, mais je ne les ai pas revus après.
Mais justement, ça peut être intéressant. Alors. Alors, Emmanuel, si tu peux commencer avec le premier film, le premier qui trouve, c'est parti.
Regarde. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs, puis d'une Volkswagen ou pare-choc cabossé. Regarde.
C'est Retour à le futur, non?
Ah bah non, mais il joue pas Retour au futur, Emmanuel.
Retour attends,
mais c'est Luc Hamet qui fait Retour à le futur.
Mais non, mais attends.
Regarde, la dame, le bouquet de fleurs, et voilà, la coccinelle cabossée.
Alors c'est Jim Carrey?
Ah bah c'est Bruce Tout-Puissant.
Non.
C'est pas Bruce Tout-Puissant.
Non. Mais regarde. Si vous faites appel à la logique, c'est assez bon. Regarde. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs.
Bravo, c'est vrai qu'il y a une logique.
Bravo. On a été très nuls, surtout moi.
Et surtout qu'il l'a super bien fait, Emmanuel.
Ouais, bravo.
J'ai essayé de.
C'est la seule où je vais un peu jouer la comédie, j'ai un mot à dire, donc ça va aller très vite.
Le sphincter a dit quoi?
Quoi?
Le sphincter a dit quoi?
C'est The Mask.
Quoi?
C'est ce que je dis.
Mais non,
c'est Dumb and Dumber.
Mais non!
Non!
C'est culte en plus.
Alors attendez. A dit quoi?
Non, je sais ce que c'est. Attends, le sphincter a dit quoi? Attends, c'est
Le sphincter a dit quoi? C'est culte.
Le sphincter a dit quoi?
En plus, il le fait trop bien là en plus, Emmanuel.
Ah, je suis nul.
C'est pas Jim Carrey, c'est un autre personnage qu'on n'a pas abordé depuis le début.
Je vais te rejeter de dire un mot.
Ah, c'est Wentworth.
Oh, joli, Wentworth.
Excellent.
Je suis nul.
Oui, car Emmanuel a doublé Mike Myers. Alors, pas seulement dans Wentworth, mais aussi dans Austin Powers.
Ah ouais?
C'est ça, Emmanuel.
Ah ouais, voilà. Magnifique.
J'ai vu que c'était fun à jouer aussi, Mike Myers.
Oui, oh, bah oui, oui, non, c'est l'humour, voilà, je sais pas, post-ado, débile.
Ouais, très bon. Putain, je me dégoûte,
un peu, mais
c'est, ah, ça fait 2-0 pour Aurélien.
Oh là là,
en plus, ah, c'est super court, en plus, je te disais toujours.
Mais oui.
Alors, le prochain est simple parce qu'il y a un indice dans le texte.
Il m'arrive de croire que je suis immortel. Je finis par croire que les personnes autour de moi le sont aussi. Non, ce que j'essaie de vous dire, Loïs, c'est que j'ai failli vous perdre.
C'est clair.
Ah, c'est... Ouais,
bah, merci.
C'est super mal.
Alors, évidemment, je ne suis plus du tout dans le contexte de la... De, je
oui, sais, oui.
Mais c'est la scène où il propose Loïs en mariage.
J'ai reconnu la voix.
D'accord, voilà. D'accord.
Mais c'est vrai que cette voix, j'en ai tout le temps.
Mais c'est vrai, parce que
c'est normal, c'est la mienne.
Mais c'est vrai parce que Emmanuel, dès que t'as dit... Alors, en fait, c'est ça qui est fou avec les doubleurs, je trouve, c'est que tu doubles plein de personnages, mais à partir du moment où t'as dit le mot Loïs, bah, j'étais dans Loïs et Clark. Et j'entendais plus Jim Carrey ni Chandler, j'entendais Superman. C'est ça qui est fou, en fait. Je trouve ça incroyable. Alors, attention, oui. la prochaine, la phrase est très simple, enfin, est très courte. Et c'est un autre personnage qui l'a joué. Alors, pas tout le temps, mais pour quelques films. C'est parti.
Quoi ? On n'a plus le droit de dire bombe dans un avion ? Bombe ! Bombe ! Bombe ! Bombe ! Bombe ! Bombe !
Alors, c'est un moment très drôle d'un film avec Robert De Niro. C'est l'indice que je vous donne. Emmanuel a doublé.
Quoi ? On n'a plus le droit de dire bombe dans un avion ?
C'est un film avec un humoriste dont le père a joué dans Seinfeld.
Ah, c'est donc Ben
Stiller.
Voilà.
Ah, bah c'est mon beau-père.
Ouais. Mon beau-père et moi,
et moi,
voilà.
Et moi.
Emmanuel, t'as doublé Ben Stiller. Alors, quelquefois, pourquoi tu l'as pas doublé sur la longueur, Ben Stiller ?
Bah, parce que je pense que je fais déjà la voix française. Je suis déjà la française de Jim Carrey. Et je pense que. Voilà, c'est un autre comédien comique, un peu de la même.
Pas tout à fait le même style,
mais je veux dire, c'est un peu la même famille de comiques, la même génération, ouais. Et donc ça aurait fait un peu doublon, je pense.
Alors attention, la prochaine, c'est culte, et en faisant des recherches sur Emmanuel, je savais pas que tu avais doublé ce personnage. On parle là d'un film cultissime, peut-être un des films les plus cultissimes de l'histoire.
C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fous, merde ? Mais t'es complètement malade ! Tu te rends pas compte que tu parles de drogue dans un cellulaire ? Regarde, t'as démoli ma baraque avec ta bagnole ! Et t'es sourd ou quoi ? J'ai dit de pas ramasser cette connasse défoncée chez moi !
Fight Club ?
Non.
Non,
c'est un film qui a eu la Palme d'Or.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Ouais, Pulp Fiction,
Pulp Fiction, parce que Emmanuel
c'est
double Eric Stoltz.
Eric Stoltz, film. Ouais,
et c'est le moment où John Travolta ramène
Uma Thurman,
qui est complètement défoncé. Et tu joues Eric Stoltz. Ça doit être fou d'avoir se dire que t'as doublé dans Pulp Fiction, quoi.
Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, quand tu doubles un film, et quel que soit le succès qu'il va avoir, déjà, tu peux pas imaginer le succès que ça va avoir. C'est-à-dire, quand j'ai doublé The Mask, j'imaginais pas le phénomène que ce serait, et qu'on en parlerait encore 30 ans après, et qu'on me demanderait de faire Splendid 50 fois par jour. mais du coup, moi, j'ai vraiment un rapport très professionnel au film, tu vois, et quand je double un film, j'ai du mal à me projeter sur le phénomène, sur le succès que ça aura au box-office. Quoi.
Et du coup, j'imagine.
Et même a posteriori, je me dis bon, bah oui, effectivement, c'est un film. Oui, c'est dingue quand ils pensent d'avoir doublé dans un film aussi culte, aussi incroyable.
Est-ce que tu ressens de la fierté après coup, même là aujourd'hui,
forcément. Ouais. De toute façon, je ressens de la fierté d'avoir doublé dans plein d'acteurs que j'ai. C'est une chance quand même d'avoir doublé ne serait-ce que Jim Carrey, Matthew Perry, Mike Myers.
Alors attention, parce qu'il y en a d'autres après. Il y en a d'autres après. Le prochain, les gars, vous allez halluciner. Pareil, je l'ai découvert en travaillant sur ta bio, Emmanuel. C'est fou que ce soit toi qui ait fait ça, je ne le savais même pas. Okay. Concentrez-vous.
Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.
Scream.
Scream, joli Guillaume.
Ah ouais.
C'est Ghostface. Emmanuel est Ghostface.
Wow.
Dans Scream. C'est pas incroyable, franchement.
Mais c'est. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un film. Il y a deux scènes au téléphone.
Ouais, c'est ça.
Une ou deux scènes,
je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais.
Et en fait, toute la campagne du film, la campagne de pub du film, de sa sortie au cinéma, on m'a demandé à moi de la faire. Donc c'est vraiment une seule scène ou deux, je sais plus, mais par téléphone. En plus, on voit pas le personnage.
Et qui est culte.
Et qui est tellement marquante que on l'a utilisée pour faire la campagne du film de la sortie du film.
Mais c'est fou. Ouais, voilà, je savais pas que tu jouais Ghostface dans Scream. C'est incroyable.
Trop bien.
C'est trop bien. Bon, le prochain, c'est un film culte aussi. Hein. Il y a un indice également.
Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre en pièce. Soumets-toi, Scar. À toi de choisir.
Le Roi Lion.
Le Roi Lion, voilà. Ouais. Emmanuel et Simba. Simba adulte.
Ah ouais.
Dans Le Roi Lion. Ouais, quand même, c'est culte. Quand
Emmanuel est schizophrène.
très grosse carrière.
Alors, il en reste deux. Le prochain, c'est peut-être le plus compliqué. Le prochain. Oui, voilà.
C'est très compliqué parce que d'abord, c'est très très vieux.
Ouais.
Je sais pas de quand date le film. Mais...
91.
Voilà, c'est ça. Donc, tu vois,
c'est le premier indice.
Ah, c'est, ça fait 30 ans, plus de 30 ans.
Ouais, mais j'ignore. Alors, c'est
32 ans.
Alors, c'est le début d'un petit monologue. Un monologue que moi, je connais par cœur, parce que c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais ado. Une scène très touchante, d'ailleurs. Et voilà, c'est parti.
Okay, okay.
J'ai regardé la télé ce matin. Et il disait que le monde où on vit est violent. C'est un monde de violence. Elle montrait tout plein de pays avec des étrangers qui y vivent. Alors du coup, je me suis mis à gamberger. Ou ils veulent rien savoir, rien montrer. Ou alors ils se fichent pas mal de ce qui se passe ici. Ouais, il y en avait que sur les autres pays. Et ils ont dit que dalle sur la mort de mon frère.
Alors c'est un film de 91, réalisé... Alors, non, c'est trop un indice si je dis ça. Bon, allez, réalisé par John Singleton.
Ah bah c'est Boys in the Hood.
Boys in the Hood, et tu joues Ice Cube.
Ouais, c'est pas incroyable, ça.
Il joue le perso d'Ice Cube et ce monologue
ouais,
de
remets,
fin.
Je remets dedans, là.
Tu te remets le monologue de fin
je vois, où ils sont
devant le porche de la maison, puis ils lui parlent, etc. C'est la scène de fin. Et tu me disais, hors antenne, que tu étais un peu mal à l'aise sur ce film.
Oui, parce que Ice Cube, c'est un rappeur, c'est un afro-américain qui a. Ils ont un rythme qui est quand même très, très particulier, très spécial. Et moi, je me sentais pas capable de le faire, quoi. Je trouvais que ça collait pas, je trouvais que c'était. C'était une idée de Medondo qui dirigeait le film, qui s'occupait de la direction artistique du doublage.
Donc okay, la voix off d'Eddie Murphy.
Voilà. Et il a eu l'idée de me mettre sur ce comédien. Et je trouve qu'il y avait vraiment aucune similitude. Et j'avais pas du tout. Alors pour le coup, me sentais très loin, contrairement à Matthew Perry ou à des acteurs. C'était beaucoup plus évident comme Jim Carrey, voilà. Mais Ice Cube, c'était très très difficile. J'avais l'impression de pas le remplir. J'avais l'impression de pas être dans son rythme. Voilà, j'en ai un peu chié.
Ouais, mais alors, et en plus, c'était avant finalement que ta carrière s'emballe, parce qu'on est en 91. Ta carrière, on va dire qu'elle s'emballe vraiment à partir de 94, quand il y a les gros films de Jim Carrey, quand il y a Friends. Friends, c'est quelle année? C'est 94 aussi
Friends, c'est 4, on a doublé début 95, parce qu'en fait, la série date de 94, mais ils ont attendu la fin de la. Il y a eu une grosse grève pour les droits de suite.
Donc finalement, Ice Cube, c'est un peu la période 94. Où tu n'étais pas associé à un acteur vraiment.
Non, pas du tout. C'était deux ans avant Le Roi Lion, trois ans avant The Mask.
Et comment c'était ta carrière à ce moment-là? Alors, il y avait.
Non, mais j'étais déjà bien implanté dans le doublage. Je crois que j'avais déjà fait une série que vous avez peut-être vue quand vous étiez petit, Sauvé par le Gong.
Oui, parce que c'est Zach.
Donc j'avais fait quand même quelques trucs, puis quelques rôles très importants, puis pas que ça, mais bon, ça j'en parle parce que c'est une série qui a marqué toute une génération. Mais c'est vrai que donc j'étais déjà bien implanté dans le doublage, j'avais déjà écoute, en 91, j'avais 20 ans pile.
Waouh.
Et j'ai commencé, j'avais 15 ans, tu vois. Donc ça faisait déjà 5 ans que je faisais du doublage.
Donc c'est-à-dire que Zach dans Sauvé par Gong, tu le jouais ado, quoi.
Ouais.
OK.
Ouais. Et d'ailleurs c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal au début de la série, parce qu'il était plus jeune que moi, enfin en tout cas il faisait plus jeune à l'image, et il fallait que j'allège ma voix, parce que j'avais une voix vraiment plus grave que lui, et j'en ai un peu bavé.
Mais attends, je suis en train de réaliser un truc là, c'est-à-dire que ado tu joues Zach, à ce moment-là c'est la série culte, tu devais avoir un succès dingue quoi avec les meufs à ce moment-là.
Parce
que tu joues. Ah non, bah... pourtant tu joues Zach dans Sauvé par le Gong, c'est fou.
Mais en fait, j'arrivais pas, j'ai jamais réussi à voir si je plaisais à une meuf.
Okay,
surtout à cette époque-là. Je n'étais pas du tout sûr de moi. Et franchement, je n'imaginais pas une seconde que ma voix pouvait être, tu vois, un atout.
Alors justement, est-ce que tu as pu sentir dans ta vie que ta voix après coup était un atout? Alors pour vous donner un exemple, on s'est donné rendez-vous tout à l'heure pour le podcast et j'étais un petit peu en retard et tu en as profité pour aller. Alors je raconte les à côté du podcast, mais tu en as profité pour aller dans une boutique de audio hi-fi
de
à côté,
son, ouais.
De son. Mmh. Et en fait, tu étais en train de parler avec la vendeuse et en vous observant, je me disais. Obligé, la vendeuse, elle se dit, attends, mais je connais cette voix, c'est la voix de Jim Carrey. Est-ce que tu penses que les gens savent ou reconnaissent?
Il y en a qui reconnaissent, il y en a qui me le disent, mais je pense que la plupart des gens ne me le disent pas parce qu'ils ne sont pas trop sûrs, en fait. Ils se disent, tiens, je connais cette voix, tu vois, je pense que, comme tu viens de le dire, mais ils n'arrivent pas à l'associer à quelqu'un, un comédien américain, ou tu vois, ils se disent, j'ai entendu cette voix. C'est une voix qui est familière aux gens, puisque forcément, enfin, à moins de ne pas avoir la télé ou de n'avoir vu aucune VF, mais je veux dire, c'est vrai que ça, c'est un petit peu, j'ai un petit peu partout, quoi.
Et tout à l'heure, tu disais, alors on me demande Splendid 50 fois, etc. Mmh. Est-ce que toi, ça te fait toujours aussi plaisir l'idée de te dire que tu as à ce point marqué les gens?
Bah, c'est marrant parce que j'ai toujours maintenant, j'ai beaucoup de mal à le réaliser, en fait. Et puis alors, en plus, je vais dire un truc, c'est que quand j'ai commencé, donc à l'âge de 15 ans, donc ça fait presque 40 ans maintenant, quand j'ai commencé à faire du doublage, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas cette espèce d'engouement autour du doublage comme il y a maintenant depuis quelques années.
Comment tu l'expliques ça d'ailleurs?
je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et puis je crois que on critique beaucoup le fait qu'il y ait que certains studios prennent des stars pour doubler des films d'animation et tout ça. Mais je pense que ça a fait parler du doublage. Et je pense que ça a pas mal participé au prestige du doublage ces dernières années. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que c'était un petit peu... on va dire qu'un comédien qui faisait du doublage avant, c'était un petit peu le ringard qui n'avait pas réussi à être acteur à l'image ou au théâtre. D'ailleurs, quand j'ai commencé le doublage, on est tous comédiens, hein, on a tous une formation d'acteur, on a tous joué au théâtre, tourné, etc. Mais à l'époque, il ne fallait pas dire que tu faisais du doublage, c'était de la honte. Quand tu as passé un casting pour tourner dans un film ou pour jouer dans une pièce de théâtre, il ne fallait surtout pas dire « oui, je fais du doublage ». Parce que là, tu étais sûr de ne pas avoir le rôle.
Oui, parce que peut-être que les producteurs se disaient, ils vont l'associer à cette voix, ça va les sortir
non,
du
c'est
film.
Pas, non, c'est pas une pas question ça. De voix, c'est juste que les réalisateurs, les metteurs en scène avaient un a priori sur le doublage. Pour eux, c'était les comédiens ratés qui les doublaient.
D'accord.
Mais il y avait aussi le mauvais doublage, tu vois. Donc, c'est pas des comédiens qui font, tu vois, par exemple, les vieux westerns, c'était descends ton cheval. Ça chantait, quoi. Tu vois, c'était mal joué, quoi. Mais il y avait aussi des très très bons doublages. C'est genre, le doublage français a une excellente réputation parce que justement, il est fait par de très bons comédiens depuis toujours. Donc, mais ils n'avaient pas cette culture-là, en fait. Mmh. C'était pour eux, un comédien qui faisait du doublage, c'était quelqu'un qui n'avait pas réussi à faire autre chose, quoi.
Et le doublage d'aujourd'hui, t'en penses quoi ?
Je le trouve un peu plus incolore inodore, quoi.
Ouais.
Mais ça, c'est un petit peu la demande, je trouve, des chaînes, des plateformes, et tout ça. Il faut des voix passe-partout, en fait.
Ouais, donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a moins de personnalité dans les voix aujourd'hui.
Oui, mais justement, dès que tu as un peu de personnalité, on se dit que, en fait, tu peux faire qu'un truc. On va pas te prendre sur plusieurs trucs parce qu'on va te reconnaître.
Mais la preuve que non. Parce que
il faut pas qu'on reconnaisse ta voix. Oui, mais ça, c'est toi, parce que toi, t'es le public. Mais les gens qui font la pluie et le beau temps dans ce métier considèrent que la voix de Jim Carrey, on peut pas l'entendre sur un autre truc parce que c'est la voix de Jim Carrey, elle est trop identifiable. Voilà, mais ça gêne pas le public. Hein. Le public, lui, ce qu'il veut, c'est une bonne VF, en fait. Hein. Ouais. Il peut regarder un film et oublier le doublage, justement. Mmh. Et comme tu disais tout à l'heure, on a du mal à imaginer que c'est... avant de le savoir, je pouvais pas imaginer que la voix de Jim Carrey, c'était aussi celle de Matthew Perry et puis de Mike Myers et tout ça, quoi. Mmh. Mais parce que tu regardes ça en tant que spectateur. T'as un œil de spectateur, t'as une appréciation de spectateur. Voilà, mais c'est vrai que... Et donc, c'est vrai que maintenant, c'est plus la mode des voix un peu neutres, passe-partout, qui, d'un rôle à l'autre, qu'on ne va pas reconnaître. Voilà. Et moi, par exemple, le nombre de fois où je me suis pointé sur un enregistrement et on m'a dit, tu sais, le client m'a dit, surtout veillez à ce que tu ne fasses pas du Curtil. Mais je sais ce que c'est parce que c'est ma personnalité, c'est l'humour que je peux mettre dans certains de mes rôles, tu vois. Donc, surtout qu'on ne te reconnaisse pas de Jim Carrey ou qu'on ne reconnaisse pas... tu ne peux pas savoir le nombre de rôles que j'ai ratés à cause de ça, quoi.
Merde. Il en reste un. Alors, pour celui-là, je vais vous demander de ne pas couper parce que c'est juste du plaisir.
Oui. Voilà. Il faut que je me recule un peu. Hein.
Splendide ! Et bonjour la classe ! Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi ? Parce que j'ai une jeunesse de retard !
Bon, on peut applaudir. Oh, incroyable, bravo. Et, et merci pour ta générosité parce que t'as vraiment bien joué
30
les textes.
30 ans après.
Non, mais c'est drôle. Putain, on en parle encore maintenant. Quoi. C'est
fou. Ah, Emmanuel Pelmel, tu as aussi doublé Johnny Knoxville dans plusieurs films, dont les Jackass. Sacha Baron Cohen dans Ali G ou Bruno.
Oh, j'ai revu Ali G.
Entre autres, oui.
Matthew McConaughey dans quelques films. Rob Lowe, Brendan Fraser dans Georges de la Jungle. Christian Slater, River Phoenix dans My Own Private Idaho. John Leguizamo, Luigi dans Super Mario Bros. Carrie Elves dans Sacré Robin des Bois, on en parlait justement, il joue dans Liar Liar. T'as aussi doublé Mark Wahlberg dans Boogie Nights. Affleck dans American Pie, Will Ferrell dans Semi-Pro, ou encore des doublages dans Maverick, Flubber, Chucky 3, Rasta Rocket, L'Homme sans visage, Spice World, ou encore Donnie Darko, dans lequel tu doubles Jack Gyllenhaal. Est-ce qu'il y a des films comme ça, moins connus du grand public, parce qu'on parle souvent de The Mask ou de Friends, que tu as adoré doubler ?
Ben alors, il y a eu... Oui, il y a quelques films, notamment des films qui sont passés un petit peu inaperçus de Jim Carrey, comme The Majestic, qui est un très beau film, je trouve, et qui était injustement... ça a eu un petit... Même, je ne sais même pas s'il y a eu un succès d'estime, d'ailleurs, mais c'était un très beau film, un registre complètement dramatique de Jim Carrey. C'est pour ça que ça n'a pas marché, d'ailleurs, parce qu'on l'attendait peut-être plus à cette époque-là dans des comédies. Mm-hmm. Mais c'est un film sur le McCarthyisme et tout ça, donc il faisait un scénariste, je crois, qui est... Et donc c'était la chasse aux sorcières... Voilà. Donc le film est très beau, je trouve que c'est dommage. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis Man on the Moon, mais ça c'est un peu plus connu.
Ouais,
on
oui.
connaît maintenant. On connaît surtout aussi le documentaire qui est passé sur Netflix sur
T'as aimé
le tournage de Man on the Moon. Oui, bah oui, mais c'est un grand malade. Quand je disais tout à l'heure que ça devait être très très dur de tourner avec un mec comme Jim Carrey, qui doit être par ailleurs ça doit être un mec délicieux, mais ça doit être insupportable pour ses partenaires et puis pour les gens qui travaillent avec, quoi. Parce que je pense qu'il est tellement. Ouais.
Il est entier.
Il part en vie, quoi. Ouais.
Ton film préféré de Jim Carrey? Même pas en tant que doubleur, mais de vraiment le film en tant que tel, quoi.
Je dirais peut-être Truman Show, parce que Truman Show, c'est je sais pas, c'est honnêtement, en dehors du fait que je sois sa voix française, mais je pense que Truman Show, indépendamment de ça, justement, c'est peut-être un des films que je pourrais classer dans le top 10 de mes films préférés, quoi.
Ouais. Pour beaucoup de gens.
Ouais.
Ouais. Alors Guillaume, Menteur-Menteur est un film sur le mensonge. Oui. Et il me semble que tu nous as préparé un petit quiz là-dessus.
Un petit quiz où j'espère que vous serez
T'es fort en quiz, Emmanuel?
Pas du tout.
D'accord. Vous serez vraiment, meilleur vraiment que très, très moi bien. Sur le quiz d'avant qui était horrible. J'arrête pas d'y penser. J'étais là. Oh je me dis que les gens, ils vont être.
On a tous oublié déjà.
Sur Twitter, ils vont être là. Oh là là. Ils sont vraiment nuls, ces mecs. Effectivement. Alors vous êtes prêts? C'est des films à propos du mensonge. Je vous lis le pitch et le premier qui trouve, il gagne. C'est parti. François, qui prétend être un employé de téléphone. François, qui prétend être un employé du téléphone, est en réalité un agent secret. Quand il découvre que sa femme semble le tromper avec un.
True Lies.
Et non.
À la totale.
Oui, la totale. Bien joué, c'était le petit piège.
Bien sûr.
Il fait mettre sur écoute et réalise avec stupeur que le soi-disant amant, l'immeuble vendeur de voiture, se fait passer pour un agent secret
à
la totale.
Parce que Chorzy, il s'appelle pas François.
J'avais un petit doute, je me suis dit, c'est la version française.
Sa femme semble le tromper avec un certain Marcel. True Lies. Un peu bizarre.
Alors, Marcel.
Bien joué. Un point pour Nemo, bravo. 10 ans après la dissolution de son groupe, Lucas retrouve un carnet contenant des chansons écrites par son ami Thomas.
Yesterday. Non. Ah non.
Et non.
Ah non, pardon.
Ah ça, c'était une bonne réponse.
Le début, je me suis dit, tiens.
Celui-là, il faut vraiment s'y connaître, il y a un petit piège, mais je sais pourquoi je le dis. Dont il n'a plus de nouvelles depuis des années. Grâce à ses textes, il rencontre un énorme succès et fait fortune. Mais un jour, Thomas réapparaît et Lucas, qui doit lui cacher la vérité à propos de son immense carrière sur la scène musicale française. Il décide alors de faire appel à son ami Francis, comédien raté, qu'il fait passer pour un comédien de grande renommée.
Ah si, je sais, c'est quoi ce truc? C'est avec Benabar, là. C'est ça? Et il y a Franck Dubosc.
Oui.
Ah oui.
Et je connais pas le nom du. Je m'en rappelle plus.
C'est un film qui s'appelle Incognito. Oh,
c'est ça, Incognito.
Et je le cite parce que j'ai joué dedans, c'est pour ça.
Ah
oui, tu joues un batteur dedans.
Je faisais la batterie de Benabar dans le film.
Pas du tout film.
Personne n'a vu.
J'avais bien
aimé ce film. Il avait bien marché. Franchement, c'était pas un navet.
C'était bien, ouais.
C'était bien.
C'était Dubosc un peu différent et tout, c'était cool.
Exactement. Alors. Ok, pas mal. Le matin de leur 5e anniversaire de mariage, Amy, la femme de Nick, disparaît de leur maison cossue de la banlieue de Saint-Louis. La police vient rapidement faire enquête et trouve plusieurs indices suspects qui pointent vers un crime violent.
Ah, Gone Girl.
Gone Girl, ouais.
C'est JB.
Je crois que c'était là.
C'était toi?
Non, je crois
que c'était
moi. C'est JB, ouais. Okay. J'ai fait genre Gone Girl.
Gone Girl, ouais. Ben Affleck.
Exactement.
En fait, c'est Saint-Louis, ça m'a bloqué, mais j'étais déjà sur Gone Girl.
Bravo. Donc 1-1, bravo. Scotty, inspecteur de police, qui a été limogé parce qu'il est sujet au vertige. Un de ses
vertigo.
Oh là là, oui.
Non, oh, c'est allé vite. C'est allé vite.
Vous avez vu, j'ai pas menti. Hein. Dans le genre nul, j'étais très très bon.
Ouais. Je pense qu'on devrait faire équipe. Parce que...
ouais. Ouais, c'est ça. Je me sens moins seul.
Très bien joué. T'as combien de points?
Je sais pas. J'ai pas
2 points. 3 points. 2 points.
Ouais, okay, 3 points.
Ça sera toujours.
Bah, incognito, je t'ai dit les acteurs, mais je
sais pas. Ce sera le qui tout double.
Comme d'hab.
Interrogé par la police suite à l'exposition criminelle d'un cargo, Verbal Kint se met à table.
Ah bah c'est Usual Suspect.
Ouais, bon.
Ah. Oh, ça, il va vite.
Ça va très vite. Oh, très chaud.
Il va très très vite.
Ouais.
Moi aussi je suis nul.
1995, Bryan Singer, bravo. Dans un monde où l'on ne connaît que la franchise, Mark Bellison, scénariste et timide rondouillard, se réjouit de retrouver Anna, la femme de ses rêves. Cependant, très vite, celle-ci le ramène à la réalité. Elle cherche le géniteur idéal. Et ce n'est pas lui. Pour ne rien arranger, Marc perd peu après son emploi et se retrouve en délicatesse avec sa banque. En délicatesse, j'ai mis l'expression.
Ah, pas mal. Ouais. Je suis en délicatesse.
Je suis en délicatesse avec ma banque.
Non, oui. Je vais sortir.
Je vous donne un indice, c'est un monde où personne ne ment.
Invention of Lying.
Ouais, c'est ça.
C'est ça,
c'est, ça. Okay, c'est quoi ça?
De Ricky Gervais.
Ah, ouais. Ouais, j'ai pas vu ce film, je le connais pas.
Et bah, très bien joué, bravo. Donc ça fait 2-2. Édouard Vuibert est au bout du rouleau. Victor Benzakem entrepreneur prospère.
Avec Tissigement.
Oui, Thomas Gilou, 1937.
J'avais trois, c'est Hubert qui m'a acheté.
J'étais en train de dire, ouais. J'avais trois quand même dans ma tête. Mais
3-3.
Ah, ok, d'accord.
Et 0. Hélas. Je permets de rappeler le score.
Je veux pas faillir à ma réputation quand même.
Alors, le pitch, j'ai bien aimé comment il est écrit. Si votre fille sort avec un sale type, si votre cœur s'est enlisé dans une relation destructrice, il existe aujourd'hui une solution radicale. Et elle s'appelle Alex. Son métier, briseur de couple professionnel. Sa méthode, la séduction. Sa mission, transformer n'importe quel petit ami en ex.
Hitch.
Non.
Putain, j'allais dire Hitch.
Cependant, Alex a une éthique. Il ne s'attaque qu'au couple dont la femme est malheureuse. Alors, accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marient dans une semaine pose question.
C'est pas le film. Alors, c'est pas le film avec Jude Law, non ?
Rien non, c'est un film français.
Ah, alibi.com.
Non, et non.
C'est comme ça, c'est pas le truc de l'autre là, film de la show là.
Encore un peu plus de mépris sinon.
L'autre. Non, la bande à Fifi quoi.
C'est un film de 2010. Dedans, il y a Vanessa Paradis.
Ah bah c'est pas non l'arnaqueur.
Oui, voilà.
Ah bah voilà, joli, bien joué. Premier point, bravo.
L'arnaqueur, voilà, bravo.
Putain, non, il est sorti de loin. Je sauve là. Je sauve l'honneur un peu quoi.
Il est sorti de loin celui-là.
Duris.
OK, en 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, l'institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, Josué.
La vie est belle.
Oui, la vie est belle.
Ah, ah, joli.
Roberto Benigni, 1998, où Roberto Benigni, il ment à son fils en lui disant que
tout roule.
Il est magnifique ce film.
Bravo. Eh bien, écoutez, il ne reste plus que deux films pour vous départager. On est à 4-3 ici, je crois. Un point. Dans un petit village, l'inventeur Geppetto Baptiste
Pinocchio.
Ah, bien joué.
Attends, mais c'était tellement facile.
Oui,
c'était tellement facile que je me suis
dit. Oui, en fait, dans la suite, tu me dis un piège.
Ah, je me suis dit, c'est pas Pinocchio.
Oh, tu t'y connais, toi.
Je me suis dit, c'est pas Pinocchio, c'est pas possible.
C'est Pinocchio.
Ok, d'accord.
Et c'est le dernier film, donc c'est un qui tout double.
T'aurais pu commencer par en 1909, Pinocchio.
Oui,
Pinocchio.
Attends, alors la dernière fois, on m'a dit, oui, ce que vous dites à chaque fois, c'est qui tout double. C'est pas du tout un qui tout double, ça s'appelle pas comme ça.
Oui, enfin bon.
Oui, tu vois ce que je dis. Et bah, chez nous, on appelle ça tout double, d'accord,
voilà.
Allez, ça marche.
Donc celui qui trouve maintenant a gagné le jeu.
Ouais, c'est
peu
ça.
Importe les points d'avant.
C'est un qui tout tout.
Ouais, oh là, en plus il est pas facile celui-là, mais il est bien. Dans sa grande et belle maison, Jean-Marc Faure est seul devant son poste de télévision. Il regarde une vidéo familiale en sirotant un verre de whisky. Peu à peu, il se souvient de son existence. Pour tout le monde, il est un brillant chirurgien, effectuant de nombreuses missions pour l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ah ok, je l'ai. C'est le film avec Daniel Auteuil.
Ah mais c'est l'adversaire.
Oui.
Ah, il l'a piqué. Il l'a piqué.
Ah, c'est magnifique ça.
Mais non, parce que en fait, c'est bah, oh, Daniel c'est Auteuil. Bon,
ah, c'est très beau.
Ah, il me l'a piqué.
Ah, c'est beau. Ah, là. Très belle victoire, ça.
Oh là là.
Bravo, bravo, bravo.
J'étais seul face au but, j'allais armé pour frapper, puis il a pris le ballon, il a tiré.
Ah, très bien, génial, bravo. Magnifique.
Et bah, Emmanuel, t'as gagné le quiz. Bah,
victoire.
Bah,
super.
Bah, tu vois, comme quoi,
très
tu peux
victoire.
Gagner. Comme quoi, tu peux gagner des quiz.
Ah, oui, super.
Très bon film, l'adversaire. Bravo.
Merci pour ce
très,
quiz,
très beau, très beau livre sur toi.
Oui. Oui,
au départ.
Histoire vraie que j'avais découvert dans Fait entrer l'accusé. Terrible histoire. Alors, Emmanuel, je ne prends aucun risque à penser que tu adores les anecdotes croustillantes sur les films.
Mmh, oui, oui, oui.
Oui, t'aimes bien ça en général.
Oui, oui, tu bah, oui, comme tout le monde aime ça.
Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que j'en ai plein sur Menteur-Menteur.
Ah bon ?
Je vais t'en faire découvrir quelques-unes.
Ah, d'accord, d'accord.
Alors, figurez-vous qu'à la base, le film était écrit pour l'acteur Steve Martin.
Ah,
donc, c'était Steve Martin qui devait jouer le rôle de Jim Carrey. Sauf que les studios n'étaient pas très chauds avec le scénario. Finalement, ça a été réécrit par un jeune auteur qui débutait et qui n'est pas crédité dans Liar Liar. J'ai trouvé ça assez incroyable. C'est Judd Apatow.
What?
Et c'est Judd Apatow, donc le réalisateur de tous les films qu'on connaît, Funny People, etc., qui a réécrit ce film. Et lui, il s'est dit, votre scénario, ça va pas parce que c'est un agent immobilier. Il faut pas que ce soit un agent immobilier, il faut que ce soit un avocat. Et il faut pas que ce soit un vieux, il faut que ce soit un type de 35 ans pour qu'il soit vraiment en forme, etc. Donc il pensait à trois types. Il pensait à Robin Williams, qui a dit non, Jim Carrey et Eddie Murphy. Et voilà, les deux autres ont refusé. Jim Carrey est le seul à avoir dit oui. Et c'est comme ça que Liar Liar s'est fait. Mais à la base, c'était Steve Martin en agent immobilier.
Voilà.
Il y a pas mal de films que Jim Carrey n'aurait pas dû faire, en fait.
Ouais, t'as des exemples.
Je sais pas, il y avait pas. Non, t'as pas cité un exemple tout à l'heure, non
De Jim Carrey, non, je crois pas. Attends,
si, de Tom Shadyac aussi. Non, c'est pas. Non.
C'était Robin Williams qui devait faire.
Oui, voilà.
Je sais plus quoi.
Ouais, et puis Mike Myers.
Surtout, ça veut dire que Eddie Murphy, il a loupé ça et il a loupé Roger Rabbit aussi.
Exactement, il devait jouer Eddie Valiant.
Sinon, à plein de trucs. En même temps,
et Jim Carrey, je sais pas, j'ai appris que Jim Carrey devait faire Pirates des Caraïbes et qu'il avait refusé parce qu'il s'était engagé sur Bruce Tout-Puissant.
C'est drôle.
Ouais.
Je pense que ça aurait fonctionné.
Drôle, ça n'a pas dû être très drôle pour lui. À mon avis, il a dû.
C'est beaucoup de millions de dollars.
Ah ouais, c'est chaud. Il devait faire.
Il n'est pas à quelques millions de dollars près, Marc.
Il devait faire Jack Sparrow.
Bah, je crois, oui.
Ça aurait bien fonctionné, je trouve.
Ouais, grave.
Ça aurait été pas mal.
Ouais.
Autre info, Jim Carrey, après le film, enfin, même après sa carrière, a dit que Liar Liar était le film le plus éprouvant qu'il avait eu à faire. Apparemment, il rentrait chez lui le soir et il était complètement épuisé. T'en parlais tout à l'heure, Emmanuel. Tu disais que le doublage, t'étais épuisé à la fin. C'est ce qu'a ressenti Carrey sur le tournage.
Je rappelle qu'il a une scène où il se pète la gueule tout seul.
Ouais, voilà. Et donc, il rentrait épuisé et aussi, il dit qu'il y a des centaines et des centaines d'heures de pellicule où juste il tente des trucs. Et t'en parlais aussi tout à l'heure, Emmanuel.
Ouais,
les gens étaient juste saoulés. Ils étaient en mode bon, on veut rentrer, c'est fini la journée.
Oui, c'est ça, parce qu'ils partaient dans des impros, des trucs un peu comme De Funès faisait. Hein. C'est le délire avec son nez. Ça, je ne sais plus dans quel film. Mais c'était un truc qui n'était pas écrit du tout. Ils ont laissé tourner à caméra parce que c'était. Mais Jim Carrey, c'est pareil. Hein. Il partait dans des trucs, dans vrille totale.
Ouais, carrément. Voilà.
Mais je suis sûr qu'en plus, il n'y a pas grand chose à acheter.
Non, je pense que tout est
drôle. Certainement.
Tout doit être drôle.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté le métier. C'est parce que. Ça l'épuisait à chaque fois de tourner, notamment dans le registre de la comédie, parce qu'il était, je pense, il se donnait tellement à 200% que.
Voilà. Attends, j'y ai repensé là, la scène de l'avion quand même. Je sais pas s'il a été beaucoup doublé par des cascadeurs, mais il y a quand même un moment où il vole et il fait une vrille. Hein. Je me suis dit, en fait, cette scène, je la connaissais par cœur. Et je me dis, mais comment ils ont fait ce truc? T'as un man qui tourne en hélicoptère et qui tombe dans des valises.
Ah, oui.
Même quand il est sur l'escalier et tout ça, c'est un délire quand même.
Ouais, non, mais c'est.
Alors, on parlait d'improvisation avec Jim Carrey. Dans le film, si vous vous en souvenez, il y a un moment où il est avec son fils, le perso de Jim Carrey, et il fait ce truc avec la main comme ça qu'il poursuit avec les...
The Krog.
Oui, le Krog.
The Claw. En anglais, c'est The Claw. Et en fait, c'est une impro de Jim Carrey. C'est ce que faisait son père avec lui, son propre père.
Ah ouais.
Et en gros, il s'est dit, mon père faisait ça avec moi petit, je tente un truc, et ils l'ont gardé au final.
Ce qui est fort, c'est qu'après, il y a le beau-père qui essaye de faire, il fait, c'est la griffe.
Et figure-toi que c'est devenu culte ça, et à chaque fois qu'on croit cet acteur, on lui demande de faire la griffe, mais version nulle.
D'ailleurs, c'est souvent les trucs partis d'improvisation qui restent, qui deviennent cultes.
C'est vrai, exactement. La fameuse scène des toilettes, on en parlait tout à l'heure. Tous les sons que vous entendez dans cette scène n'ont pas été ajoutés, c'est Jim Carrey, ça vient de Jim Carrey, les sons en fait. Donc parfois je pense que c'est vraiment cogné contre les toilettes ou les WC. Mais tous les sons qu'on entend, ils n'ont rien retouché. Ce sont les sons qu'on entend durant la scène. Ça c'est assez incroyable. Autre info, Jim Carrey a accepté de jouer dans Liar Liar parce que pour la première fois on lui proposait un rôle dans lequel il n'avait pas à se grimer. Dans The Mask, il devait se grimer.
Oui, c'est vrai, ouais.
Dans Ace Ventura, il avait les cheveux un peu partout. Ouais. Et là, pour la première fois, on lui demandait
Dumb and Dumber aussi.
Dumb and Dumber aussi, exactement. Et là, pour la première fois, on lui demandait de jouer un personnage entre guillemets normal. Voilà. Et c'est ce qu'a convaincu Jim Carrey d'accepter. Est-ce que vous savez quel film a grandement inspiré les gens qui ont créé Liar Liar? Ils se sont inspirés d'un film de 1988 dans lequel joue Tom Hanks, film réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Penny Marshall.
Ah, c'est A League of Their Own ?
Non, c'est Big.
Ah bon ?
Et en fait, l'idée des gens qui ont créé Liar Liar, c'était Big. Parce qu'en fait, en gros, c'est un enfant qui a un vœu. T'en parlais tout à l'heure, Emmanuel, qui dit « je veux devenir plus grand ». Et bien là, c'est un enfant, je veux que mon père ne demande plus. D'accord. Et donc, ils sont grandement inspirés de Big pour faire Liar Liar.
D'ailleurs, je me suis dit, son vœu, il est un peu pleuré parce qu'il dit « je veux que mon père arrête de mentir pendant un jour ». Qui dit ça dans un vœu pendant un jour?
C'est
nul. Le père, il arrête son anniversaire et il le dit vraiment. Il fait pendant un jour. Mec, arrête cette phrase. Dis pas pendant un jour. C'est nul.
C'est vrai. Et donc, on parlait de l'évolution du script. Au tout départ, le script a été proposé à Disney. Et en fait, Disney voulait que ce soit un personnage féminin. Il voulait que ce soit Goldie Hawn qui joue le personnage principal de Liar Liar. Mmh. Et Goldie Hawn est très forte dans les comédies, donc ça aurait pu aussi fonctionner, je pense.
Mais elle était aussi bankable en 90
90. Mais elle a toujours été bankable, Goldie Hawn. Dès les années 60-70, elle commençait à jouer et joue un peu tout, quoi. Donc Robin Williams, tout à l'heure, je disais que Robin Williams avait refusé de jouer dans Liar Liar. Mais en vrai, il avait une bonne excuse parce que c'était pour jouer dans Will Hunting et il a eu un Oscar.
Donc, pour le coup, il n'y a pas de regret.
Non, pas de regret. Non. Mais juste, il voulait tourner sous Tom Shediac. C'est pour ça qu'il a fait ce film. Dr. Patch. Et enfin, dernière info, la meilleure. la meilleure d'entre toutes pour Liar Liar, durant In Living Color, donc la série dans, enfin le TV show dans lequel jouait Jim Carrey, il avait créé un personnage qui s'appelait le pompier Marshall Bill. C'est un pompier un peu fantasque. Il y a plusieurs sketchs comme ça qu'on peut retrouver sur YouTube. Et dans la scène de fin de Liar Liar, ça se termine à l'aéroport, donc il y a des pompiers qui arrivent parce que...
Il est sur un brancard. Hein,
voilà, il est sur un brancard, exactement. Et bien, si vous regardez, allez voir sur YouTube parce que c'est tellement drôle. Dans la foule derrière, il y a le pompier Marshall Bill qui est joué par Jim Carrey.
Quoi ?
Et donc, on voit un type comme ça qui fait plein de grimaces avec un costume de pompier. Et bien, c'est Jim Carrey qui a fait un petit caméo.
Ah ouais ?
C'est un truc hyper...
Ah, c'est drôle, ça.
C'est un truc hyper méta. Où en fait, voilà, vous tapez Marshall Bill Liar Liar sur YouTube, et c'est hyper drôle. On le voit au fond. Et donc, c'est là où aussi on voit la générosité de Jim Carrey, qui est sur le tournage, en mode, vous savez quoi, je vais prendre la tenue de pompier et je vais jouer un gars derrière. Et...
Ah, c'est drôle.
C'est, voilà, c'est trop bien.
Trop fort.
Ça t'a régalé toutes ces infos, Emmanuel ?
J'ai appris plein de trucs.
Bah écoute, ça t'a régalé. Voilà,
j'étais humilié par ce quiz.
Non, bah t'as gagné.
T'as gagné.
Oui. Je me suis un peu inspiré de JB.
On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour toi, Emmanuel, le dernier film que tu as vu au cinéma ?
La Patte Patrouille.
Ah oui.
Non, parce que j'ai un enfant de 7 ans. Non, mais c'est vrai en plus.
Et alors, c'était bien.
Je suis insomniaque, donc j'ai souvent besoin de faire des siestes comme ça. Je me suis dit, tiens, ça va me permettre de m'endormir un petit peu et d'accompagner mon fils de jouer mon rôle de père.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme ?
Vice versa avec mon fils.
Ah, ok, d'accord. Et alors, t'as aimé ?
Oui, mais en plus, je l'avais pas vu. J'ai beaucoup aimé.
Très bien. La dernière série que t'as regardée ?
L'intro trop. Non, j'ai... Le petit Nicolas. Non, Sky Rojo.
Alors, ça parle de quoi ?
Sur Netflix. Bah, tu sais, c'est trois prostituées en fait qui essaient d'échapper à leur proxénète qui tient une boîte voilà donc c'est sur trois saisons, il n'y aura pas de quatrième parce que je vous dirai pas pourquoi parce qu'il meurt à la fin. Et c'est une série espagnole et c'est vraiment très très bien quoi.
Très bien. La dernière chanson que tu as écoutée?
Now and Then des Beatles. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you.
Le dernier livre que tu as lu?
Alors, c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Grégoire Delacour et qui s'appelle. Donc, le livre, c'est L'Enfant réparé. Mais j'avais vu. Je venais de lire. Tu sais, c'est celui qui a écrit La liste de mes envies. Et puis. Un autre livre que j'ai lu, Mon père. Et puis. Voilà.
Très bien.
Très bien. Très, très bon auteur.
Alors.
Qui vient de la pub.
Peu importe si c'est loin dans le temps, le dernier jeu vidéo auquel tu as joué.
D'être en 1996 et c'est d'être Tomb Raider, un truc comme ça.
Ah, donc tu disais
que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai une PS4 que je me suis fait offrir il y a 2 ans à Noël et que je n'ai quasiment jamais, à laquelle j'ai quasiment jamais joué, mais j'ai joué à Gran Turismo. Voilà.
GTA.
Oui.
Ah non, Gran Turismo.
Non, Gran Turismo.
Ok, d'accord, le jeu de voiture. Très bien. Ok, très bien. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu?
Alors, je lis pas de BD ni de manga.
Ouais, et dans ton enfance, des BD que tu lisais, t'as des souvenirs comme
quelques
ça ?
Quelques Tintins, quelques Astérix, voilà.
Donc ça remonte là-bas.
Voilà, ça remonte. Ouais.
Très bien. Le dernier objet culturel que tu as acheté ?
Un livre.
J'ai failli y assister tout à l'heure parce que t'as failli acheter une enceinte à côté. Tu vois ?
Oui. Mais non, parce qu'en fait, on m'a demandé des idées de cadeaux pour Noël et donc il a fallu que je trouve mon inspiration dans ce magasin et j'ai trouvé.
Et donc c'est un livre.
Et donc c'est un livre, ouais.
Ouais,
c'est un
celui livre. Que t'as cité juste avant.
Pas du tout.
Non, lequel ?
Celui que je lis en ce moment.
D'accord.
Il s'appelle Spinoza, celui qui a tué Dieu.
Très bien.
De José Rodríguez dos Santos.
Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter ?
Je suis pas trop
réseau.
Artiste. Si, un artiste vivant ou
peu importe.
Mort. Je regarde. Non, je suis. En fait, je suis la page Insta de la page fan page de Glenn Gould. Voilà.
Ok, d'accord.
Et si Jean Dujardin, j'ai regardé un petit peu, parce que je suis Jean Dujardin. Voilà.
Très bien, ce podcast est désormais terminé. Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, prochains mois ?
Alors, ce qui va se passer, pas grand-chose, parce qu'en fait, j'ai pas le droit de parler de ce que je double et qui n'est pas encore diffusé.
D'accord.
Maintenant, on signe des clauses de confidentialité. C'est presque plus long que d'enregistrer le film. Mais voilà, on n'a pas le droit de on n'a même pas le droit de dire le comédien qu'on va doubler dans son prochain film.
C'était comme ça avant,
même sans parler du pitch. Hein.
C'est nouveau ça ou c'était comme ça
c'est,
aussi avant
c'est plus nouveau depuis. C'est plus nouveau depuis que les plateformes existent, ouais.
Ok.
Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est pareil hein, pour les enregistrements. Tu ne peux pas rentrer dans un film d'enregistrement si t'es étranger au doublage, quoi, okay. À la prod. Parce que justement, pour éviter qu'il y ait des.
Et tu parlais de théâtre juste avant. C'est une possibilité de te revoir au théâtre un jour ou...
Oui, bien, j'espère. Pour l'instant, j'ai des projets qui sont encore un peu. Qui sont encore que des projets, des voilà, mais il y a rien de concret, voilà. Mais j'ai quelques projets, oui.
Alors, on a parlé de doublage pendant tout ce podcast, mais tu as aussi joué la comédie dans des films, visuellement. Mm-hmm. Et j'ai lu que dans ta filmographie, tu avais joué dans Brise de Nice.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai ?
Non, c'est pas vrai.
Il y a marqué le père de Fred sur ton Wikipédia.
Alors, certainement pas. Bah, Wikipédia raconte beaucoup de conneries.
Bah, attends, mais c'est drôle, ça, pourquoi ils mettent ça alors ?
Non, bah, je sais pas qui a mis ça, je sais pas qui s'occupe de...
Oui, d'ailleurs, qui s'occupe des Wikipédia
bah, C'est un peu
tout le monde. Ouais.
C'est un peu tout le monde, hein. C'est, ouais, c'est ça.
Bah, y a quelqu'un qui a décidé que tu avais joué dans Brise de Nice.
Eh bien, il faudra lui dire que. je ne sais pas où il trouve ses informations, mais en tout cas, elles sont fausses.
Très bien.
Ce qui est marrant, c'est que tu viens de dire que tu suivais Jean Dujardin.
Ah bah oui.
Non, mais c'est un comédien que j'aime beaucoup. Mais j'ai joué dans beaucoup de films quand j'étais enfant. En fait, j'ai commencé à 10 ans et j'ai commencé par tourner. Je faisais pas de doublage à l'époque et puis j'ai tout tourné au cinéma, notamment dans Les Misérables, la version réalisée par Robert Hossein avec Lino Ventura. Ah,
ça, Carmel, par contre, ça y était dans Wikipédia. Ils sont pas trompés.
Ça, c'est vrai. Bon, mais il y a quand même des choses vraies. Hein.
Oui.
Voilà. Et puis voilà quelques autres films.
Il disait aussi que dans ton Wikipédia, il disait que tu avais fait dans les années 90 des jingles cultes sur les radios. Alors je sais plus si c'est Energy ou Fun Radio. C'est Fun Radio.
Oui, c'est principalement Fun Radio. J'ai fait d'autres radios ensuite, mais j'ai fait le fameux. Je sais pas si vous êtes de cette génération.
Oui, ça doit nous parler.
Qui écoutiez Levin Fun,
Doc
Eddie Fool, je faisais Sex, Capote et Rock'n'Roll.
Oh ouais!
Voilà, ouais, c'était c'est Eddie Fool qui était directeur d'antenne et qui avait vu un film que j'avais doublé qui s'appelait Pump Up the Volume, dans lequel je doublais Christian Slater, ouais. Et qui était un animateur radio qui piratait les ondes. Hein, voilà, et donc il poussait des coups de gueule comme ça. C'était un peu les prémices de la libre antenne. Tu vois, donc il donnait la parole à des auditeurs, tu vois, et pour pousser des coups de gueule, et donc évidemment c'était totalement interdit, donc il s'est arrêté dans le film, hein. et il avait un ton, enfin en tout cas voilà, et en français je lui donnais un ton aussi qui intéressait beaucoup Fun Radio à l'époque. Ils voulaient faire leur jingle. Le film, c'était un film culte pour eux, quoi.
Trop marrant. Écoute Emmanuel, merci beaucoup d'être venu. Moi j'avais vu quelques-uns de tes passages dans Koumini, dans Allociné, etc. Et je m'étais dit que tu avais l'air d'être quelqu'un de très généreux, et c'est le cas en fait. Tu étais très généreux dans cette émission et je t'en remercie. Et puis bravo.
Merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement.
Ouais, et puis bravo pour tous les doublages, ça nous a régalé. Je pense que ça vous a fait plaisir d'entendre cette voix, vous qui nous écoutez. Donc merci Emmanuel, à bientôt.
Merci à vous.
Et merci les gars, puis nous on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.
Salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.